J'espère que ce n'est pas moi que vous applaudissez, mais que c'est les artistes, parce que c'est magnifique. Vous avez pu remarquer que c'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, accompagné par des instruments, mais tout est entièrement a cappella. La technique, c'est magnifique, surtout quand ça marche. Et puis, j'y ai pensé pendant que Raymond et compagnie s'affairaient à réparer les problèmes. Et je me suis dit, tiens, je crois qu'on n'est pas assez reconnaissant quand ça marche. Parce que 90% de temps, vous avez pu remarquer, nos techniciens travaillent magnifiquement et grâce à eux, on a un son et la lumière tous les dimanches matins impeccable. Alors soyons reconnaissants pour toutes les fois que ça a bien marché. Mais ce n'est pas de son et lumière que je voulais vous parler ce matin. Je m'adresse d'abord aux enfants, aux grands en tout cas. Est-ce que vous avez entendu parler de la lèpre? Vous avez? Jamais? Personne? Personne. Même pas les Africains? Est-ce que vous avez vu les adultes en lépreux dans votre vie? Ah, quand même, une galgache, forcément. Et puis ceux qui ont été en Afrique, bien sûr. Eh bien, c'est une maladie qui est encore très répandue dans le tiers-monde, notamment, et surtout en Asie du Sud-Ouest, Sud-Est et en Afrique. Et pourtant, même en Suisse, il y avait de la lèpre. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 90 ans qu'il y a en Suisse qui est décédé de la lèpre. Enfin, en tout cas, il était lépreux. Ce n'était pas un fribourgeois, comme on pourrait penser peut-être, les mauvais plaisantins, mais c'était un valaisan. C'est une maladie. On pourrait peut-être voir la photo, Sonia. Voilà. C'est une maladie qui atteint sa victime de plusieurs façons. D'abord, sur le plan esthétique, il y a surtout la peau qui est attaquée, donc c'est quelque chose qui se voit très vite. Ensuite, il y a différents organes, mais notamment tout ce qui est nerfs, muscles, qui sont attaqués. Ce qui fait que, à cause surtout de l'insensibilité dont le malade est atteint, il se blesse facilement, il s'infecte, et souvent il finit par perdre ses doigts, ou même, comme ce monsieur par exemple, ou même des extrémités. Et puis là, un œil qui est atteint, c'est parce qu'il ne peut pas fermer les paupières à cause de la paralysie musculaire. Mais ce n'est pas la seule chose, le seul aspect qui est tragique dans cette maladie. C'est que c'est l'exclusion sociale qui atteint ces malades. D'abord parce que c'est répugnant, que les gens, ça leur fait peur. Mais aussi parce que la maladie étant contagieuse, les gens ont peur, bien sûr, de se faire infecter. Et ils ont tort, parce qu'en fait, là, il faut une exposition vraiment suffisamment longue pour que la maladie se transmette. Mais surtout, ce qui était embêtant à l'époque, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est qu'il n'y avait pas de remède vraiment efficace. On traitait la lèpre par la phytothérapie, et c'est seulement au début des années 80, donc il y a 40 ans, qu'on a établi vraiment un traitement scientifiquement confirmé et super efficace, une trithérapie, ça vous rappelle peut-être quelque chose, qui peut éradiquer la lèpre en quelques jours. Mais évidemment, les séquelles qu'elle avait déjà causées, on peut plus les effacer, bien sûr. Moi-même, tout au long de ma carrière de médecin, j'ai jamais vu un lépreux, si ce n'est grâce à mes mission de courte durée que j'ai entreprise notamment à l'hôpital de la mission évangélique contre la lèpre au Bangladesh, au nord du Bangladesh, où travaillait Jean-François Negrini, que j'ai eu l'occasion de côtoyer des lépreux. Et c'est vraiment Jésus-Christ qui a révolutionné notre rapport aux lépreux. Et les chrétiens ont suivi l'exemple de Jésus-Christ par la suite, tout au long des 2000 ans. Toutes les réproseries et toute la prise en charge des lépreux, elle a été faite essentiellement par des missionnaires ou des médecins missionnaires chrétiens. Mais nous allons y revenir tout à l'heure. Vous allez voir, ça sera très intéressant. Mais nous allons surtout remettre ce culte entre les mains de Dieu et sous son regard. Nous allons prier. Seigneur, que ce matin, nous puissions te rendre un culte qui t'honore et qui te réjouisse. Que ton Saint-Esprit nous parle et nous fasse grandir dans notre foi. Que notre Père céleste, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, soit glorifié par ce culte. Amen. Et nous allons tout de suite commencer en musique. J'invite le groupe de louanges à nous entraîner. Merci.
Voilà, alors, vous m'entendez ? Non. Vous ne m'entendez pas. Est-ce que... Il y a quelque chose ? Oui, vous m'entendez. Voilà, alors la louange aujourd'hui, j'ai souhaité la faire accompagnée du psaume 103. Et voilà, donc on va un peu passer du psaume 103 à quelques chants, et puis tout dans la suite ainsi. Donc c'est le psaume 103, c'est un psaume de David. Que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu Saint, que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe, c'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel intervient pour redresser les torts et il défend les droits de tous les opprimés.
L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux, il est plein de patience et débordant d'amour. Le Seigneur est bon, sautez de joie.
Sautez de joie, chantez à Dieu, célébrez son nom. Enflammez-vous, acclamez-le, le Seigneur est bon. Sautez de joie, chantez à Dieu, célébrez son nom. Enflammez-vous, acclamez-le, le Seigneur est bon. Sa colère dure un instant, sa faveur dure à jamais. Sa colère dure un instant, sa faveur dure à jamais. Sautez de joie, chantez à Dieu, célébrez son nom. Enflammez-vous, acclamez-le. Sautez de joie, chantez à Dieu, célébrez son nom. Enflammez-vous, acclamez-le, le Seigneur est acclamez-le, acclamez-le. Le Seigneur est bon. Sautez de joie, chantez à Dieu, célébrez son nom. Enflammez-le, acclamez-le. Le Seigneur est bon. L'allégresse a chassé l'ombre.
La terre tremble sous nos dents.
L'allégresse a chassé l'ombre. La terre tremble sous nos dents. Sautez de joie, chantez à Dieu. Célébrez son nom. Enflammez-vous, acclamez-le. Le Seigneur est bon.
Il ne tient pas rigueur sans cesse. Et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Autant l'ouest est loin de l'est, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse pour ceux qui le révèrent. Il sait de quelles pattes nous sommes façonnés. Il se rappelle bien que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe, à une fleur des champs. La voici qui fleurit, qu'un vent souffle dessus, et la voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Éternel, ton amour est là depuis toujours et durera toujours pour ceux qui te révèrent. Ta loyauté demeure à l'égard des enfants de leurs enfants. Elle est pour ceux qui restent fidèles à ton alliance, pour ceux qui se souviennent de tes commandements pour les mettre en pratique.
sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde? Perdus au large, dans le brouillard, au gré des vents. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit.
Cieux, l'Éternel a établi son trône. Il est le roi, le maître de l'univers entier. Louez donc l'Éternel, vous tous ses anges vaillants et forts, qui faites ce qu'il dit dès qu'il vous le demande. Oui, louez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, qui, à son service, exécutez sa volonté. Oui, louez l'Éternel, toute créature, partout où il gouverne. Que tout mon être loue l'Éternel.
Thank you.
pouvez vous asseoir. Et je crois que c'est le moment pour les enfants de rejoindre les groupes. Merci d'avoir été avec nous pendant ce moment de chant, de louange. Et on vous souhaite un bon moment avec vos moniteurs. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
Peut-être avant qu'ils partent, nos enfants et leurs animateurs, j'aimerais les remettre tous à Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous te prions, Seigneur, pour tous ces petits-enfants qui vont descendre et qui vont entendre ta parole, qui vont entendre plein de choses, que ton esprit les accompagne, qu'il leur ouvre les oreilles et les cœurs. Que ces enfants puissent grandir dans la foi et dans la confiance en toi. Et nous te remettons également leurs animateurs, Seigneur, que eux aussi soient conduits par ton Saint-Esprit, qu'ils puissent les apprendre à te connaître, Seigneur. Et nous les bénissons également en ton nom. Au nom de Jésus. Amen.
Une foule de gens suivirent Jésus. Alors un lépreux s'approcha, se mit à genoux devant lui et dit « Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et déclara « Je le veux, sois pur. » Aussitôt l'homme fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Écoute bien, ne parle de cela à personne, mais va te faire examiner par le prêtre, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. »
Voilà, bonjour à tous. Je me demande si on pourrait amplifier juste moins fort le micro puis que je parle plus fort pour éviter la résonance. Mais bon. Voilà, alors vous avez compris pourquoi Alexandre a parlé de lèpre. Juste une petite question, est-ce que vous vous souvenez, mais là je demande aux gens qui ont fait des pasteurs, puis ceux qui ont préparé le culte avec moi, de ne pas répondre, est-ce que vous vous souvenez où on trouve ce récit dans la Bible, enfin dans les évangiles, mais où? Qui se souvient? Tu dis Marc, oui? Bon, j'ai pas vérifié s'il est dans les parallèles, mais il est spécifiquement tel que nous l'avons lu dans l'évangile de Matthieu. Mais à quel endroit encore? S'il y a quelqu'un qui se souvient. Pardon? Au début. Alors, assez au début. En fait, je vous ai caché le premier verset. Pour vous laisser réfléchir, quand Jésus descendit de la montagne, un lépreux s'approcha. Alors c'est quoi cette montagne? Voilà, la montagne, c'est Matthieu 5 à 7, c'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Juste après le sermon sur la montagne, on a ça. Et ce sermon sur la montagne, vous savez, je crois que c'est le texte peut-être le plus connu des évangiles, et peut-être même de la Bible, bien en dehors des milieux chrétiens, bien au-delà du christianisme. Et puis, on a des expressions dans la vie courante. Personne ne se souvient que ça vient de là, mais l'histoire de la paille et de la poutre, tout le monde a entendu parler, ou bien tendre l'autre joue. Okay, c'est des expressions qui viennent de l'enseignement de Jésus dans ce fameux sermon sur la montagne. Alors j'aimerais vous montrer une image un petit peu qui montre comment Matthieu a construit son évangile, parce que je crois que ça a une signification. Est-ce que ça... Ah, il faut peut-être que j'appuie au bon endroit. Ça ne veut pas venir? Voilà. Matthieu a construit son évangile comme un sandwich. Je vous ai une fois montré, mais il y a 2 ans déjà, comme un immense sandwich multicouche. Alors, tout au début, Il y a le récit de la naissance et ça va jusqu'à l'appel des premiers disciples. Et puis après, il y a justement ces différentes couches. Il y a des couches de parole et des couches d'action. Donc il y a 5 parties où Jésus fait des discours et puis les parties entre deux où Jésus fait des actes, hein, pour le dire de manière simpliste. Et puis tout à la fin, il y a ces récits de la mort et de la résurrection qu'on retrouve dans les 4 évangiles avec des différences, mais quand même très, très proches. Alors, est-ce que ma souris veut marcher ici? Non. Bon. OK. On le voit de la manière où il y a une espèce de petit refrain. Après chaque tranche de discours, Jésus descend de la montagne, un lépreux s'approche. Plus loin, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, voilà, il partit de là. Il y a chaque fois aussi un espèce de mouvement, il va quelque part. Quand Jésus eut fini de raconter ses paraboles, là vous devinez peut-être lesquelles il y a, parce que c'est là où il y a des paraboles comme la semence, voilà. Et puis, quand Jésus eut achevé ses instructions, il quitta la Galilée. Et le dernier, quand Jésus eut achevé toutes ses instructions, il dit à ses disciples, « Vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans 2 jours. » Et vous savez ce que c'est. C'est la fin et la résurrection qui arrivent. Alors, je pense qu'il y a une intention là derrière. L'intention, c'est de souligner à quel point il y a un lien étroit entre les actes et les paroles. Et d'ailleurs, ça se confirme tout à la fin quand Jésus envoie ses disciples en mission, puisqu'il leur dit de faire des disciples qui mettent en pratique un enseignement. C'est donc que parole et action vont ensemble, que la foi et la pratique sont absolument liées. Alors, si on regarde un peu dans l'Évangile, cette foi dont Jésus parle, l'accent n'est pas tellement mis sur croire que quelque chose, hein, est vrai, mais sur une relation personnelle de confiance dans ce Dieu que Jésus appelle Père. Et puis les actes, c'est pas non plus, c'est pas faire des bonnes œuvres, c'est plus l'accent sur des relations réconciliées, sur la manière de regarder autrui. Et en écho à ce Dieu qui m'a sauvé et qui m'a accueilli, comme on va le voir. Et c'est l'enjeu, c'est ma manière de voir le prochain. Alors, si on revient au récit pour le regarder un peu plus en détail. Voilà, c'est en principe la première guérison qui est racontée dans l'Évangile. Alors, c'est vrai que déjà avant le sermon sur la montagne, il nous est raconté de manière générale que Jésus prêchait le royaume de Dieu et qui guérissait toutes sortes de maladies et d'infirmités. C'est un peu une description du ministère de Jésus, mais là, il nous raconte un truc très précis. Mais est-ce que c'est vraiment une guérison? Bon, c'en est une, mais l'accent est peut-être mis sur autre chose. Il demande quoi, le lépreux, quand il approche de Jésus? Vous vous souvenez? D'être pur. Ah, il dit pas, demande pas d'être guéri, il demande d'être purifié. Et Jésus lui répond, je le veux, sois pur. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il lui dit? Jésus, n'en parle à personne, mais va faire ton check-up médical chez le prêtre pour prouver que tu es bien guéri. Littéralement, c'est témoignage, hein, mais c'est bien ça, de ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, impur? C'est pas seulement une question de maladie. D'ailleurs, Alexandre l'a bien montré, c'est qu'on est totalement à l'écart des autres quand on est lépreux. Alors, je crois que ce que enseigne Jésus va bien plus loin que seulement la maladie physique de la lèpre. C'est toute la question des relations sociales qui sont rompues. Puis d'être à l'écart, on n'a plus de lèpre, hein, chez nous, Mais vous pouvez penser, par exemple, quand il y a un enfant à l'école qui a un petit problème et puis ses copains, il n'y a plus personne qui lui parle. C'est terrible. Ils sont complètement à l'écart. Mais des fois, ça arrive dans les familles, des frères et sœurs qui ne se parlent plus. Ça peut même arriver dans un couple. Un des conjoints est vexé, il ne dit plus un mot à l'autre. Et l'autre, il se sent très mal. Alors, on est sur la première action de Jésus. Mais l'initiative, elle vient du lépreux. Ce n'est pas Jésus qui est allé vers lui, c'est le lépreux qui est venu. Alors, il ose s'approcher de Jésus. C'est quand même assez extraordinaire parce que normalement, il devrait pas oser s'approcher de qui que ce soit. Il doit rester à distance. Je pense que c'est un signe que Jésus a déjà une certaine réputation pour qu'on ose s'approcher de lui. Et puis là, Jésus étend la main et le touche. Et là, pour l'époque, c'est vraiment un truc qui est complètement invraisemblable. Et comme on a dit, il l'envoie vers le prêtre et lui dit « N'en parle à personne ». C'est que l'accent que met Jésus, il ne veut pas mettre en avant l'admiration ou l'attrait pour ce qui est miraculeux. Il veut mettre en avant le rétablissement des liens dans la communauté. Je crois que c'est ça qui est le plus important dans ce récit. Alors j'aimerais vous raconter une petite histoire qui se passe au Laos, parce que c'est vrai que c'est une mission qui, comme d'autres, se sont beaucoup occupés des lépreux. Mais en fait, ça a commencé par une petite expérience que quelqu'un a eue. Un jour, c'était en 1928, il y a un missionnaire qui reçoit un drôle de cadeau. C'était une petite fille nommée Soupine. Alors cette petite fille, elle a une enfance absolument terrible. Elle était née en Chine, son papa était un fumeur d'opium, il l'a revendue à un marchand chinois qui était au Laos, à Savannakhet, et puis comme sa servante, elle était toute petite, mais voilà, elle vendait des biscuits en ville, elle faisait, puis elle était complètement renfermée, cette petite fille, sauvage et farouche à cause de son vécu. Et puis un beau jour, le commerçant chinois, il voit des taches sur cette petite fille. Elle avait attrapé la lèpre. C'est pas où, mais voilà, ça a commencé. Alors, il a décidé de la donner à un missionnaire pour qu'il en fasse, voilà, qu'il en fasse sa servante, parce que eux, c'était comme ça qu'ils réfléchissaient. Puis si elle arrive à se guérir, bon, voilà. Alors, la petite fille a été adoptée par le missionnaire. Et puis, elle a été à l'école de la station missionnaire, elle a appris à connaître l'Évangile, puis petit à petit, elle a vraiment été complètement transformée dans sa personnalité. La maladie n'était pas trop grave à ce moment-là, elle n'était pas encore contagieuse. Mais au bout de 5 ans, la maladie s'est réveillée et elle a commencé à devenir contagieuse. Ils ne pouvaient plus la garder sur place. Mais, et puis, ils ne voulaient naturellement pas faire comme ça se fait dans les villages, on les envoie tout seuls dans la forêt. Alors, il y avait à Chiang Mai, qui est au nord de la Thaïlande, donc c'est 1000 km, plus de 1000 km de là, il y avait un grand centre de la mission presbytérienne qui soignait des lépreux. Ils en avaient plus de 200 là-bas, donc ils ont décidé d'aller là-bas à Chiang Mai. Alors, ils se mettent en route. Ils ont fait déjà une journée de cheval pour arriver jusqu'au bord du Mekong. Après, je crois, ils ont fait 8 heures pour faire 120 km de camion jusqu'à une ville qui s'appelle Ubon, qui n'est pas si loin que ça, mais qui est au sud de la Thaïlande. Puis après, c'était censé être plus facile parce qu'ils avaient un train, puis Ubon jusqu'à Chiang Mai. Alors, ils achètent le billet, ils vont à la gare, puis au moment de monter dans le train, refus total, impossible de l'apprendre. Donc après tout ce voyage, ils ont dû rebrousser chemin, rentrer à la maison, bredouille. Et c'est là qu'ils ont, en somme, compris quelle était l'horreur de la situation d'un lépreux. Et elle avait à ce moment-là 12 ans. Ils ont été obligés de la mettre dans un endroit près de Paxé. C'était une léproserie de l'époque, mais c'était assez horrible comme situation. Mais, et puis, comme elle était au milieu de gens qui n'étaient pas chrétiens, elle essayait de témoigner sa foi. Elle a été... Beaucoup de gens se moquaient d'elle, etc. Mais elle a toujours tenu le coup, puis elle a été tellement rayonnante qu'il y a en fait plein de gens qui sont venus à l'évangile par son témoignage. Alors, elle a vécu encore une douzaine d'années, et puis la maladie l'a emportée. Mais elle a laissé un témoignage absolument extraordinaire par la transformation que Dieu avait opérée dans sa personnalité, dans son... Voilà. Et c'est ça qui a, en somme, déclenché tout l'engagement de la mission pour les lépreux. Ils ont créé une léproserie qu'ils ont dû mettre très, très loin de la ville parce qu'on ne voulait pas... Voilà, on les a envoyés construire une léproserie en pleine forêt vierge. Il a fallu tout défricher parce qu'on ne voulait pas de ces gens près de la ville. Et c'est vraiment quelque chose qui, dans l'histoire de la mission, je crois, a beaucoup touché les gens, cette manière dont les missionnaires ont... traiter les gens les plus rejetés de la société. Il y avait ceux-là, il y en avait d'autres, mais je crois que c'est une chose qui a marqué. Et aujourd'hui même, c'est bien longtemps après, il y a toujours des gens dans cette léproserie, mais c'est des lépreux, voilà, c'est les enfants de ces lépreux, c'est plus des lépreux. C'est un endroit où les églises sont un peu le centre spirituel des chrétiens de toute la province. Donc on voit que voilà, ça a porté des fruits à très long terme. Alors je reviens à l'évangile de Matthieu. Alors Matthieu commence par cette rencontre avec les proscrits dans sa première série des actes de Jésus. Mais déjà avant... dans son début du ministère en Galilée, voilà, le début du ministère en Galilée, il nous raconte que Jésus avait son ministère dans un territoire des non-juifs. Et Matthieu se plaît à citer un texte de l'Ancien Testament qui montre que la lumière de Dieu va jusque chez les non-juifs. Et puis les premiers disciples, qui c'est les premiers disciples de Jésus? Vous avez quel métier, les premiers disciples? Des pêcheurs. C'était pas des gens très considérés, c'était vraisemblablement des illettrés. Puis après, il y a le sermon sur la montagne, puis première rencontre de Jésus, un proscrit, lépreux. Et puis, guérison suivante, il guérit le serviteur d'un officier, d'un militaire romain. Alors déjà, c'est l'occupant, ce n'est pas des gens qu'on aimait particulièrement hein, chez les Juifs. Puis un peu plus loin, il guérit deux possédés, mais où? Encore une fois, dans un territoire non-juif. Puis le prochain appel d'un disciple, c'est Matthieu, qui faisait quel métier? Oui, percepteur d'impôts. Bon, nous, en général, on ne les aime pas trop, mais à l'époque, c'était autre chose, hein, parce que c'était des filous, c'était des collabos. Voilà. C'est un type comme ça que Jésus appelle comme disciple. Donc, vraiment, Matthieu souligne à quel point Jésus dépasse toutes les barrières de peuple, les barrières de classe sociale, les barrières hommes-femmes. Voilà. Alors, Jésus nous montre avec ça sa manière d'accueillir les gens. Un accueil radical. Il y a une semaine, j'étais à Avignon, puis j'ai trouvé que Pafon, que vous, certains d'entre vous connaissent, c'est un gars qui a fait l'Institut Emmaüs, puis qui la troisième année... par la grâce des autorités d'extrême droite dans le canton de Vaud, de ce moment-là, il n'a pas eu son autorisation d'habiter là-bas pour sa troisième année, donc il a habité à côté de chez nous, sur France, puis il venait à l'église ici. Alors, je ne sais pas, qui se souvient de Pafon? Pas beaucoup. ce qui a un bout de temps. Hein. Alors lui, après plusieurs dizaines d'années de ministère en France, il repart en Thaïlande, dans le nord de la Thaïlande, justement dans la région de Chiang Mai, même un peu plus au nord, pour travailler parmi ses compatriotes. Et il y avait une grande fête parmi les Laotiens à Avignon pour son envoi en mission et aussi un culte commun. Et puis dans ce culte commun, il a raconté une petite histoire qu'il a reçue dans une pastorale de la Fédération Baptiste C'est un collègue qui avait 30 ans de ministère, puis qui disait « Nos églises ont des murs trop hauts, des fenêtres trop hautes et des portes trop étroites. Des fenêtres hautes pour se sentir en sécurité et ne pas être trop vu, puis des portes étroites bon, pour qu'il n'y ait pas n'importe qui entre et que les gens ne ressortent pas trop. » Bon, bien sûr, il ne parlait pas d'architecture, hein, c'est sûr. Il posait simplement la question, à travers ça, de l'ouverture du cœur. Je ne suis pas juste dans mon truc. Bon, ça ne fait rien. Quelle est l'ouverture de mon cœur à l'égard des autres? C'est la question que nous pose Jésus. Alors Jésus, il a accueilli des gens vraiment de toute situation sociale, de n'importe quel aspect physique. Et c'est vrai que l'aspect physique, c'est comme quelque chose qui compte. On a un lépreux, ça a quelque chose de répugnant. Quelqu'un qui a une difformité, ça a quelque chose de répugnant. Il a accueilli des gens qui avaient des situations de vie pas ultra correctes. Je ne sais pas si vous pourriez peut-être me donner des exemples, lister un peu les exemples de ces gens qui sont un peu différents des autres, rejetés de la société, d'une manière ou d'une autre, qui ont été accueillis par Jésus. Les prostituées, oui.
La femme à la perte de sang.
Une femme à la perte de sang, oui. Parce que si elle perdait du sang, elle était aussi impure. Donc, se tenir à distance et être un peu exclue.
La femme adultère.
La femme adultère, oui. La samaritaine. Alors, qu'est-ce qu'elle avait, la samaritaine? Oui. Et puis, elle était d'une région où on considérait que les gens avaient une religion vachement mélangée. Hein? Zachée, alors Zachée, ça c'était Ouais, c'était quelqu'un de pas très recommandable parce que c'est ces gens qui piquent les sous des autres, qui profitent de leur fonction, voilà. Alors, il y a des pays du tiers-monde où on connaît ça très bien. Chez nous, il y a d'autres manières, d'autres formes de corruption. Bon, on ne va pas parler maintenant. Les aveugles, les possédés.
Judas,
oui. Voilà, et puis... Il puisait dans la caisse, oui. Alors, Jésus accueille tous ces gens-là. Et quelque part, Jésus, il réussit à combiner une exigence éthique qui est quand même très élevée et qui nous semble quasiment inaccessible, avec un accueil qui est d'une largeur incroyable. Par exemple, il a une exigence pour le couple de fidélité qui est absolue. Et puis pourtant, il accueille des personnes qui ont des situations de vie pas très correctes. Il accueille des prostituées, il ne leur demande pas de changer de métier. Jésus à une exigence éthique de non-violence aussi radicale, et pourtant il accueille des militaires et il ne leur a pas demandé de changer de métier. Voilà. Alors, c'est à réfléchir, hein? C'est à réfléchir. Moi, je crois que cet accueil radical de Jésus, pour moi, il va vraiment très loin. Et personnellement, ça, je partage une conviction personnelle, sans vouloir faire polémique, parce que c'est des choses qui sont sujets à division et à conflit dans les églises, mais pour moi, ça inclut aussi, pour parler aujourd'hui, les gens qui ont une orientation sexuelle différente. Je crois que Jésus, il regarde au cœur des gens et pas à leur situation, leur orientation, leur métier et tout ça. Voilà. Alors, cet appel à être accueillant, il s'adresse à nous en tant que personne, en tant qu'Église. Et la question que je me pose, c'est que parfois, enfin, nous, on pense qu'on est accueillant, et je pense qu'on l'est. Mais il faut toujours se demander comment l'autre le ressent. Alors, pour juste nous faire réfléchir, je me suis dit juste un petit exemple. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui fument dans notre église. Je ne veux pas demander, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de gens qui fument en proportion dans l'église qu'en dehors. Alors, ça peut vouloir dire que quand on est chrétien, la foi nous aide à ne pas tomber dans cette addiction ou en sortir. Okay? Si c'est ça, c'est très bien. Ça pourrait aussi vouloir dire que les gens qui fument ne seront pas forcément tout à fait à l'aise ou se sentiront regardés bizarrement s'ils viennent. Et si c'est ça la raison, ça pose une petite question. Voilà. Alors, on pourrait se poser la question à propos de d'autres choses, ne va pas plus loin. J'aimerais simplement arriver maintenant à la conclusion. J'aimerais reprendre un texte que Paul dit dans l'Épître aux Romains. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Alors, le contexte où Paul le dit, c'est à l'intérieur de l'Église, dans une situation où il y avait des conflits qu'on pourrait dire d'ordre théologique et éthique, en tout cas sur l'interprétation de la Bible et de ce qui était permis ou pas pour les chrétiens. Et c'est dans cette situation-là qu'il leur dit « accueillez-vous les uns les autres ». Mais naturellement, ça vaut aussi pour l'accueil des gens en dehors de l'Église. Et finalement, comme le Christ vous a accueillis, c'est parce que je me sais gracié, accueilli pleinement par Dieu, à travers le Christ, que ça me permet, moi, d'accueillir si largement mon prochain à l'image de Jésus. Voilà.
Suite à ces paroles interpellantes, je pense que chacun se sent, je ne dirais pas visé, mais en tout cas concerné. Nous allons prier ensemble. Nous allons remettre nos interrogations et nos convictions et ce que nous avons entendu, ce que ça a produit dans nos cœurs. Nous allons le mettre dans la prière. Seigneur, c'est vrai que ce que Sylvain nous a dit ce matin est interpellant. C'est quelque chose qui devrait nous toucher non seulement ce matin, pendant une heure et demie de culte, mais ça devrait être un sujet de réflexion et de prière tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine et tout au long de nos vies. De par la nature, nous avons et j'ai pas envie d'être dérangé, d'être interpellé. J'ai pas envie non plus que quelqu'un empiète sur mes plates-bandes. Et pourtant, c'est exactement ce que tu nous demandes, Seigneur. C'est ce que tu as fait, tu as donné cet exemple. Étant fatigué, tu as encore accueilli tous ceux qui avaient besoin de ton accueil. Étant fatigué, tu as encore guéri ceux qui avaient besoin de guérison. Alors nous te prions que ton exemple puisse être toujours le benchmark, comme on dit, le point marquant dans nos vies, dans toutes les situations de tous les jours. Amen. Amen.
Seigneur, on n'oublie jamais d'où tu nous as tirés. Et surtout, Seigneur, on a tendance, j'ai tendance à mettre une échelle de valeur dans les péchés. Il y a des choses plus graves, des choses moins graves. Mais pour toi, le péché, c'est quelque chose qui nous sépare de toi. Alors, Seigneur, que nous puissions aussi te voir les autres comme toi, tu les vois.
Amen. Amen. Seigneur Jésus, quel magnifique exemple tu nous donnes. Tu touches celui qui est impur. Une chose qui était impensable, inimaginable dans l'Ancien Testament. Et Seigneur, pourtant, tu l'as fait. Tu nous as montré comment sortir de notre zone, de ma zone de confort et d'aller vers l'autre au prix de notre confort, de notre tranquillité. Merci encore Seigneur et donne-nous non seulement l'envie, mais aussi les forces de le faire. Amen. Et nous allons prendre la Sainte Cène, mais pour l'introduire, je vais demander encore une fois à notre groupe de louanges de nous accompagner dans le chant qui s'appelle « Inépuisable grâce ».
Quand Sylvain nous a dit qu'il allait parler du lépreux, je me suis sentie tout de suite solidaire avec ce lépreux. Pourquoi ? À cause de mes taches blanches. Quelqu'un m'a dit un jour, si tu vas en Inde, on croira que tu as la lèpre. Alors, je n'ai pas la lèpre, j'ai du vitiligo, c'est ni dangereux ni contagieux. Mais c'est inesthétique et je dois dire que je le vis difficilement. Et pourtant, je me rends compte combien Dieu travaille profondément en moi. Et je sais que son but est toujours de nous faire progresser dans la connaissance et dans la ressemblance à Jésus. La semaine dernière, Philippe Anchaud nous a dit de nous souvenir qu'on était des pécheurs et de ne pas oublier la repentance. Alors nous allons célébrer la Sainte Cène et je crois que c'est un moment particulier pour méditer sur le prix que Dieu a payé pour nous pardonner. Et ce prix inestimable représente aussi la valeur que nous avons pour lui. Le soir étant venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. »
Prions. Seigneur, nous avons entendu parler de l'inépuisable grâce que tu nous prépares, dont nous pouvons jouir. Mais elle n'est pas venue toute seule. Tu l'as payée d'avance. Tu l'as payée pour que nous puissions vraiment puiser dans cette grâce. Mais tout d'abord, nous savons que nous devons être réconciliés avec le Père. Et cette réconciliation, elle a eu lieu il y a 2000 ans sur la croix où tu l'as payée, Seigneur, chèrement, par amour pour nous et par amour pour ton Père. Cette grâce qui est inépuisable est gratuite, du moins en apparence. Mais encore une fois, nous voulons nous souvenir par ce repas combien elle a été chèrement payée, Seigneur. C'est dans cette pensée, nous voulons être réconciliés avec toi, Seigneur, et prendre ce repas en étant animés par cette pensée. Amen. Et nous allons prendre le pain et le vin. Nous serons distribués dans les rangs. Et sachez qu'au milieu des plateaux, il y a des coupelles qui sont un peu plus rouges, qui sont avec du vin sans alcool, ou du jus de raisin, si vous voulez. Et pour ceux qui préfèrent prendre la coupe, vous n'avez qu'à faire un signe. Séverine, merci.
Prions. Seigneur, merci pour ton pardon. Tu as pardonné nos péchés qui nous séparaient de toi et qui mettent des barrières dans nos relations. Seigneur, que ton œuvre de réconciliation fasse son œuvre dans nos cœurs pour que nous puissions transmettre ce message autour de nous. Amen.
Amen. Quand on va au restaurant, moi qui suis pas francophone, j'apprécie certaines plaisanteries en français que je connais pas dans ma langue. Et notamment, quand on a mangé, même si on a bien mangé, on demande la douloureuse. Je pense que ça doit être très suisse, ça, plus, comme expression. J'aime beaucoup. Mais j'espère, et je suis sûr même, que pour vous, aujourd'hui, ce n'est pas une douloureuse qu'on vous demande. On vous demande de donner quelque chose de votre bien que vous n'avez pas acquis grâce à vous, grâce à nous. Nous l'avons acquis grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, pour qui nous vivons et qui est au centre de nos vies. Alors je vous invite à donner, sans douleur. Prions encore. Seigneur, je veux te remercier pour toutes ces personnes qui ont donné de ce que tu leur avais donné. Et nous te prions, Seigneur, que cet argent puisse faire avancer ton royaume. Nous avons chanté que tu es roi. Alors c'est dans ce royaume que nous vivons déjà. Nous voulons faire avancer tout ce qui te concerne. Que cet argent puisse servir à non seulement pour soutenir notre pasteur ou nos pasteurs, mais aussi à tous ceux qui ont été envoyés au loin comme missionnaires pour te servir à plein temps. Et puis pour toutes les bonnes actions que notre Église va faire dans le monde, dans ce village, et nous te prions, Seigneur, qu'ils soient bien utilisés. Encore une fois, nous te le remettons à tes pieds. Amen. Alors, on arrive à la fin du culte. Mais il y a encore une petite surprise vidéo que vous allez écouter ou regarder plutôt. C'est sur le ministère qui s'appelle l'Escale. Alors, si on peut la mettre. Et puis, elle sera suivie par les annonces présentées par Philippe Anchaud.
Je vais juste préciser qu'il y a des gens qui vont régulièrement là-bas à Saint-Pré pour amener des vêtements ou d'autres objets récupérés. Puis il y a un coffre là, un des coffres sous les fenêtres qui est réservé à ça. Donc si vous avez des vêtements à donner, en bon état naturellement, mais voilà, vous pouvez les déposer là-bas et puis un beau jour quelqu'un les amènera.
Merci Sylvain. Samedi prochain, le 29 septembre, la fête donc des 25 ans de l'Escale à Saint-Pré. Quelques nouvelles de la famille que nous formons. Déjà pour vous dire que Henri Gensch est à nouveau hospitalisé depuis cette semaine ici à l'hôpital de la Tour. Nous voulons le recommander à la bonté de Dieu ainsi que Bertie, son épouse. J'aimerais prier. Nous pensons Seigneur à Henri et nous te prions de lui faire du bien, s'il te plaît, là où il se trouve. Merci de lui permettre de retrouver des forces. Pensons au corps médical qui prend soin de lui en te les recommandant aussi. Merci de renouveler Bertie dans son être tout entier et qu'elle puisse expérimenter la paix qui vient de toi. Dans le nom de Jésus, amen. J'ai reçu hier de bonnes nouvelles de Florence Piguet, qui, Dieu voulant, sort de l'hôpital demain et restera encore une semaine du côté de Châteaudet avec ses enfants et Charlabel avant de revenir dans la région. On se réjouit de les revoir, n'est-ce pas? Mon collègue Claude est en vacances pour quelques jours, il rentre samedi soir de la semaine qui vient. Alors les annonces peut-être, Sonia? Merci. Voilà, pour cette semaine, alors journée de pastorale de la Frée à Nyon ce mardi. En soirée, le mardi 25, un temps de prière communautaire. Nous prendrons le temps de prier les uns pour les autres. Bienvenue à chacun, chacune, pour ce temps de prière communautaire à 20h15 en bas dans la salle du CTT. À moins que tout d'un coup, nous dépassions les 20 participants, auquel cas on trouvera bien un autre endroit pour se retrouver. Vendredi soir, le caté pour nos 12-15 ans, c'est déjà la deuxième séance et je crois qu'on se réjouit. Dimanche prochain, le culte avec Louise Sbindon qui animera la partie louange au début du culte. Voilà, samedi prochain donc, le marché Opus à Saint-Pré à l'Escale à l'occasion des 25 ans. Et puis dimanche prochain, après le culte, un repas organisé, offert, qui précédera une rencontre d'information sur la vie de l'EEM. Cette rencontre d'information, elle est destinée en priorité aux nouvelles personnes. Mais j'ai découvert qu'il y avait des personnes pas si nouvelles qui étaient peut-être intéressées. N'hésitez pas à vous manifester. Il y a une liste sur laquelle vous pouvez vous inscrire ou dites-le-moi simplement parce que nous organisons le repas qui vous sera servi et je vous promets que rien que pour le repas, ça vaudrait le coup, mais la rencontre d'information qui suivra vaut le coup aussi. Nos prochains ateliers bibliques, à partir du mardi 2 octobre, puis tous les 15 jours, en 3 ou 4 rencontres, création et vocation de l'être humain. La rencontre du fil d'argent avec la projection du film « Romandie au cœur » de Samuel Monachon. Ça, c'est mardi 2 octobre, donc la semaine suivante, à partir de 14h. La sortie des potes le 7 octobre 2018, « Save the date », ça vaut le coup pour vos enfants, la sortie des potes. Je ne sais pas où elle aura lieu, on a une indication, les moniteurs Ça se décide demain, alors bonne décision. Et l'occasion pour moi de vous dire que le dimanche 7 octobre, il y aura ici même un culte participatif que Claude Becher animera. Et il me prie de vous communiquer le thème suivant à votre réflexion. Voici ce qui, dans ma vie quotidienne, m'aide dans mon combat de fidélité à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui m'aide dans ma vie quotidienne, dans mon combat de fidélité à Jésus-Christ ? Un avis de recherche, une ou deux personnes pour faire les lessives des linges et matériels de nettoyage de l'EEM toutes les 3-4 semaines, histoire que ça ne sente pas le fennec. Et c'est Anne-Marie Wenger qui est la personne relais. Elle est là ce matin, je crois, Anne-Marie. Merci. Alors, un très bon dimanche. N'oubliez pas le café de suite après le culte et votre humble participation au coup.
Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Après, ce rappel de ce bout de verset qui nous a été proposé là par David Jeunecamp, tu nous guides vers le port au cœur de ton amour. Un peu plus loin que ce verset où Paul parle de l'accueil, il fait cette prière, que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et j'ajoute, pour le transmettre autour de vous, bon dimanche.